Fréquence Mistral.
Et salut à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui dans nos studios un humoriste pas comme les autres, un humoriste qui se veut être un sgeg mais qui n'en est pas un. Je l'ai rencontré à l'occasion de plusieurs scènes et voilà, il a le talent ou en tout cas le don de faire rire le public dès la première seconde. Des fois ça va être une position, des fois ça va être un regard, souvent ça va être une attitude et puis après il y a les textes qui arrivent derrière, il y a les blagues. Et il a fait son chemin dans le milieu de l'humour, mais il a fait son chemin dans d'autres domaine avant, mais on va en parler, je vais rien divulgâcher. Bienvenue à toi, Thibaut Rugy.
Salut, ça va, tu vas bien?
Ça va, et toi?
Ouais, parfait.
Bah, très heureux de te recevoir à l'occasion donc, de ce premier spectacle que tu vas jouer, donc Requin, donc c'est le titre de ce spectacle, et aussi pour venir parler un petit peu de toi, de ta carrière, de ce que tu fais dans le milieu de l'humour. Est-ce que déjà, voilà, je t'ai présenté de manière très rapide et sommaire, est-ce que toi tu peux te présenter?
Moi déjà j'ai beaucoup aimé ta présentation.
Merci.
J'aimerais la reprendre parce que moi celle que j'ai fait sur ChatGPT elle était beaucoup moins ouf, on va être honnête.
Okay, ouais.
Elle était vraiment bien.
Mais il y avait plus de mots de vocabulaire, non?
Ouais, grave. mais quand même c'était très cool. Non, c'est ça, je suis un humoriste, on va dire, de Marseille. Mm-hmm. Marseille, je suis parti à Paris aussi faire mes armes.
Ouais.
Et là je suis de retour à Marseille pour mon spectacle. Je raconte un peu tout le vécu que j'ai eu avant de monter sur scène.
Ok, oui, parce que c'est ça, tu as eu une vie avant, on va en parler pendant cette interview. Mais déjà, en premier lieu, est-ce que toi, tu peux m'expliquer pourquoi tu as choisi ce nom de requin pour le spectacle?
Alors, le nom de requin de base, c'est par rapport, c'est mon animal préféré, le requin. J'aime beaucoup la paire de TN aussi, parce que j'ai beaucoup de TN, et il y a le jeu de mots requin. Et je trouvais ça cool de faire la métaphore que je suis un poisson clown dans un milieu de requin, d'où le nom.
Oh, ok, d'accord, donc il y a bien une référence aux chaussures, j'attendais de savoir ou pas si c'était lié. Toi, tu l'as dit, hein, tu as eu une vie avant le stand-up et tu as eu vraiment une grande vie, mais on va en parler aussi un peu plus tard. Aujourd'hui, c'est donc ce premier spectacle qui t'amène dans nos studios et on voulait t'interviewer parce que on est persuadé chez Fréquence Mistral qu'il va y avoir une longue suite à ce spectacle. Mais est-ce que déjà tu peux commencer par nous raconter le début, nous raconter ta première scène? Comment t'as débuté toi le stand-up?
Alors, ma première scène que j'ai faite, c'est grâce à Hakim Jimili, là on en parlera tout à l'heure.
Mais un grand humoriste, ouais.
C'est lui qui m'a motivé à monter sur scène. Il m'a motivé, j'ai fait ma première scène au Comedy Club Vieux-Port.
Ok, oui.
C'était une scène ouverte, il devait avoir peut-être 8 ou 10 personnes, donc 5 collègues à moi. Je sortais de boîte de nuit, j'étais dans un état pitoyable. Ça n'a pas trop marché, mais ça va, je me suis senti à l'aise sur scène. Mais c'est surtout ma deuxième scène qui était marquante, parce qu'Hakim Jimili m'a dit de faire sa première partie.
Ah oui, et sur ta deuxième scène?
Sur ma deuxième scène.
Ah ouais.
Et ma deuxième scène, c'était sa première partie à Bordeaux, devant 1000 personnes au théâtre Fémina.
Ah oui, là donc t'as attaqué presque direct, t'es passé de 10 personnes à 1000 personnes.
Exact, d'une cabine téléphonique à un théâtre de...
On n'a jamais vu une croissance aussi rapide dans le milieu du stand-up. Et ça s'est bien passé, cette seconde scène?
Alors, j'avais pas les codes du stand-up. Déjà, la première chose que j'ai pensé quand j'étais sur scène avec le micro, c'est... Je crois qu'il faut écrire des blagues. Parce que je suis arrivé à Bordeaux, j'avais zéro blague décrite. Et du coup, j'ai fait de l'impro en insultant les gens parce que je regardais beaucoup Redon Bougaraba.
Ah ouais.
On va pas dire les mots, mais vous avez capté de quoi je les ai insultés.
Oui.
Voilà. Et ça a été ça pendant à peu près 10 minutes où il y avait une première partie avant moi qui avait gagné un concours que j'ai fait que l'insulter, le pauvre. Et j'ai fait que me moquer de son physique. Mais les gens, ils ont été grave réceptifs. Ça a été cool. Hakim, il m'a dit ce que tu as fait, c'est la dernière fois que tu le fais, mais c'est cool. Et c'est lui qui m'a motivé du coup à remonter sur scène derrière.
Donc ouais, je voulais arriver sur la question de l'inspiration, mais donc Hakim Jimili, ça a été ta première inspiration, ou en tout cas le premier détonateur, starter qui t'a permis de débuter.
Oui, ça a été lui et Redon Bougaraba en vrai.
Ah ouais, Redon, ouais.
Redon aussi, parce que je le connaissais bien. Mais le premier qui m'a dit monte sur scène, ça a été Hakim Jimili.
Ouais, parce que du coup, là, on vient de drop name, là, de lancer des noms comme ça, mais c'est vrai que tu avais déjà un réseau avant de te lancer dans le stand-up, parce que là, on vient de parler de Redon Bougaraba, d'Hakim Jimili. Comment ça se fait que tu avais ce tissu de personnes que tu connaissais avant de commencer le stand-up?
En gros, moi, du coup, quand je suis sorti des études, je me suis retrouvé à faire des clips par inadvertance, pour être honnête, par inadvertance. Et après ces clips-là, parce que j'ai fait presque tout le rap français, du moins tout le rap marseillais, je l'ai fait en clip. Et je me suis retrouvé à faire une série, à travailler sur une série sous écrou. Et dedans, il y avait Hichem Bougaraba, qui est le frère de Redouane.
Oui, oui.
Et du coup, j'ai croisé Redouane. Et Redouane, comme il m'a vu que j'étais réalisateur de la série, il m'a dit « Est-ce que t'es chaud de faire un documentaire avec moi ?» Et c'est là que j'ai bien rencontré Redouane et que j'ai rencontré du coup tous ses collègues humoristes, puisqu'il y avait le Kiefer Tour où il y avait lui, Jimo, Ahmed Sparrow et Roman Frécinet.
Ah oui, donc t'as rencontré tous les grands noms
en une seule fois, ouais.
Mais c'est, quand tu dis justement, t'as fait les clips, donc t'as fait les clips vidéo pour les artistes marseillais, dont Jules, de ce que je sais, non ?
C'est le premier clip que j'ai fait de ma vie, c'était Jules, oui.
Ça, c'est quand même incroyable de commencer. Toi, tu commences tout en grand. C'est deuxième scène, 1000 personnes, premier clip, Jules.
Ouais,
tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvé à clipper Jules, parce que moi, je connais l'histoire, je la trouve complètement folle.
Mais du coup, j'étais poissonnier. J'étais vraiment poissonnier, moi, c'était mon métier d'avant, tu vois. Et j'ai un ami à moi, en fait, qui était du même quartier que Jules. Il connaissait très bien et tout, Amr, big up à lui, qui était réalisateur. Et il vient me voir, il me dit, ce jour-là, je peux pas être là. Est-ce que tu connais quelqu'un qui peut me remplacer ? J'ai dit oui, et j'y suis allé moi-même.
Je remontais que je te trouvais quelqu'un pour remplacer, voilà. Et t'as remplacé.
Et je l'ai remplacé, sans aucune capacité. Ouais. Mais c'était grave cool, c'était un bon moment et tout. Et justement, Amr, grâce à lui, il m'a donné plein de chance et il m'a fait faire plein d'autres clips après avec lui.
Ah bah, incroyable. Et donc, tu t'es retrouvé sur ce clip, mais dès que t'es arrivé, tu t'avais pas. Toi, t'as pas le syndrome de l'imposteur, ça c'est arrivé en
Je suis l'imposteur, c'est même pas le syndrome. c'est l'imposteur tout court.
T'es arrivé. Et ça s'est bien passé, t'as réussi à faire ce qu'il fallait faire. T'avais déjà, j'imagine, quelques compétences quand même minimes.
J'avais zéro compétence, mais ça va. Le clip, il est bien sorti, tu vois. Après, c'est les clips à Jules, c'est pas des clips où ils ont besoin d'une grosse. Réalisation, tu vois.
Il n'y a pas d'effets spéciaux ni rien. Ouais.
Non, voilà, c'est pas un Marvel, on va être honnête. Hein. C'est une caméra d'un quartier et un freestyle. Mais non, ça va, je m'en suis bien sorti, j'étais content, tu vois. Après, maintenant, quand je regarde le clip, maintenant, avec tous les clips que j'ai pu faire, je les trouve horribles.
Oui.
Mais sur le coup, j'étais vraiment fier.
Oui, mais comme quand on regarde son premier sketch des années plus tard, on se dit toujours, mais comment j'ai pu faire ça ? Mais après, il faut passer par là justement pour arriver.
Exactement, c'est ça, ouais.
Donc, tu es passé donc, par le milieu des clips, la réalisation. Ensuite, donc, sous la série Sous Écrou, donc, avec le frère de Redouane Bougueraba, Hicham Bougueraba.
C'est ça.
Et donc, après cette tournée qui t'a, j'imagine, quand t'as vu les artistes tous les soirs performer devant un public, rigoler, ça a dû te gratter à l'intérieur, non ?
En vrai, pas forcément, parce que moi, je suis très timide dans la vraie vie. Mm-hmm. Et d'ailleurs, grâce au stand-up, je suis de moins en moins. Mm-hmm. Mais de base, j'étais grave timide. Et du coup, moi, c'est pas un truc qui me motivait de parler devant des gens. Mm-hmm. Vraiment pas. Et moi, je restais beaucoup pendant la tournée avec Hakim Jimmy. À un moment, on est restés beaucoup ensemble. Et lui, il me trouvait trop marrant. Parce qu'il me faisait faire n'importe quoi. Et moi, je rigolais avec lui. On rigolait tout le temps. Tout le temps, je clashais et tout. Et il m'a dit, en vrai, monte sur scène. Parce que je connais des humoristes qui sont bien plus. Qui sont énormément connus, mais qui sont pas marrants dans la vie. Il m'a dit, t'es marrant dans la vie, tu peux tenter, t'as rien à perdre. Et c'est grâce à lui que j'ai fait ce premier pas.
Il a allumé la flamme, en tout cas, qui brûle grave, aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai que, bon, j'en ai pas parlé dans l'intro, mais en dehors de la scène où tu performes et où donc tu fais des belles performances, parce que je t'ai vu retourner les salles et en tout cas faire exploser de rire du monde autour de toi, t'as ce succès sur les réseaux sociaux, ou ce début de succès en tout cas, où t'es déjà bien suivi, tu fais des vidéos régulièrement. Comment tu vis cette double casquette, justement, de créateur de contenu pour les réseaux sociaux et ensuite d'humoriste sur scène le soir?
En fait, moi, les réseaux sociaux, pour moi, c'est juste le CV, entre guillemets, pour que les gens ils viennent à mon spectacle.
Ouais.
C'est pas ce que j'aime le plus, je vais être honnête. Des fois, je m'amuse à tourner des vidéos. Maintenant, je commence à prendre un peu de plaisir, mais c'est pas la chose qui m'anime le plus. Moi, je suis bien avec un micro sur scène. C'est cool, les gens ils me reconnaissent, les vidéos elles marchent bien, mais j'aimerais plus convertir toutes les vues que je fais en nombre de places achetées, vraiment.
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui disent la même chose. On avait reçu Julien Vigne quand il faisait la Divine Comédie, il y a tard l'époque comme on dit, et il disait oui, je pourrais remplir le Vélodrome avec tous ceux qui me détestent et la Divine Comédie avec ceux qui m'aiment. Aujourd'hui, ils visent le silo, donc il y a quand même une conversion qui se fait petit à petit, c'est juste que ça prend du temps.
Oui, ça prend énormément de temps, hein. Comme a dit Redouane Bougueraba, justement, j'ai mis 10 ans à percer du jour au lendemain.
Ah oui, c'est ça. Le stand-up, c'est un art qui prend beaucoup de temps, et c'est vrai que je le précise toujours aux auditeurs et auditrices, on est dans un art qui, contrairement à d'autres, ne peut pas se travailler seul dans un coin. C'est quelque chose qu'on fait en collaboration avec le public. Donc on vient souvent tester des blagues sur le public, puisqu'on ne peut pas savoir en fait, chez soi si une blague elle est vraiment drôle ou pas. Il faut la faire pour voir si les gens ils la reçoivent ou pas, et comment ils la reçoivent. Et toi, je sais que tu aimes beaucoup le test, puisque là, oui. Tu viens de, juste avant le studio, tu m'as dévoilé un proto-sketch que tu es en train de faire et que tu es arrivé à écrire et mémoriser en 10 minutes. D'ailleurs, ça m'a assez bluffé. Toi, tu parles beaucoup de ce personnage, en tout cas, tu as débuté avec ce personnage beaucoup sur scène, de Sgeg, où tu expliquais que tu étais un Sgeg et tout. Qu'est-ce que c'est pour toi déjà un Sgeg? J'ai toujours rêvé de poser cette question à la vérité.
Un Sgeg, moi, c'est pas dans le sens, tu vois, le pénis.
Sexuel, ouais.
Rien à voir. Moi, c'est dans le sens, c'est une personne un peu naïve qui vient des bas-fonds. De la société française, tu vois, et qui est un peu en même temps rêveur et qui dit beaucoup de bêtises.
qui dit beaucoup de bêtises, mais des fois des vérités entre deux bêtises, donc c'est pour c'est ça, ça qu'il surprend. Ouais,
ouais, exactement.
Ouais, donc ça te permet, ça te donne peut-être une liberté de ton, d'expression sur scène ou en dehors.
Ouais, grave, grave. Bah, avec ce personnage-là, je peux me permettre de dire des choses que je pourrais pas dire avec un autre personnage.
Ouais, bah oui, c'est ça. C'est, ça te donne une liberté, puisque tu es un des rares, je tiens à le préciser, bon, je vais pas dire ta carrière, mais tu es un des rares qui s'est pas humoriste, qui a fait des blagues sur la Palestine et Israël quand c'était en plein moment où personne, entre guillemets, osait y mettre les pieds. Et il y a d'autres sujets où je t'ai vu y aller, où là où tout le monde avait, entre guillemets, s'auto-censuré ou avait la peur d'y aller. Toi, justement, est-ce que. Tu t'exprimes assez librement, je pense qu'on le remarque, mais est-ce que tu as des choses que tu censures ou que tu t'empêches de dire ou que tu limites ?
En vrai, pas trop, mais moi, mon but, c'est de faire rire et pas de blesser les gens. Ça veut dire que, par exemple, sur Israël-Palestine, j'aime bien parler de... Enfin, j'aime bien. J'aime pas forcément parler de ce sujet, mais quand j'y vais, tu vois, le but, c'est de faire rire et prendre un peu conscience aux gens de ce qui se passe dans ce monde, tu vois. Mais j'essaie pas de blesser non plus des gens, c'est ça ma limite, c'est pas
la
blesser.
La priorité, c'est le divertissement et le rire, c'est
d'abord ça. Exactement, parce que moi je suis humoriste et je suis pas là pour faire une morale non plus, tu vois.
Ouais, bah, bien sûr, c'est sûr que c'est l'objectif tout le temps de rester, enfin pour certains c'est dur de rester accroché dans le rire, mais c'est ton objectif premier. Toi aujourd'hui, Thibaut Roger, tu travailles seul ou en équipe, t'es solo pour tes créations?
Oui, je suis solo, j'écris tout seul, je me produis tout seul, je fais tout seul en indé comme Jules. Mais après j'ai la chance d'être bien entouré. J'ai ma copine déjà qui est beaucoup avec moi, qui me filme, qui m'accompagne sur les scènes. Et j'ai mes collègues, pareil, ils me font tous mes retours sur mes vidéos, tous mes retours sur mes blagues.
Ouais, ils sont présents et ils suivent à fond le projet de A à Z.
Et ils sont très sincères, c'est ça qui est cool. C'est que si la vidéo ou la blague elle est nulle, ils vont me le dire. Ils vont pas prendre des pincettes en me disant « non, mais il faudrait que tu la travailles », ils me disent « éclaté ».
Ouais, ça c'est Marseille, hein. il n'y a pas de demi-mesure. Soit ils adorent, soit ils détestent, mais dans tous les cas, ils vont pas aller dans le...
Ouais,
la politesse, te dire oui, peut-être qu'il y a, ils vont te dire c'est nul quoi.
Ouais, ils sont grave sincères. Grave sincères.
Et donc, Thibaut, toi, on en a parlé un peu, mais dans cette année, tu as déménagé à Paris pour quelques mois pour viser cette aventure. Pourquoi déjà cette envie de partir à Paris? Explique-nous ce désir fou pour un Marseillais.
Alors, j'ai déménagé 1 an et 3 mois, ouais. Je compte. Je peux te compter les heures aussi. Tout, le soleil, pas beaucoup. Non, en fait, j'ai déménagé là-bas. Grâce ou à cause, je sais pas, d'Hakim Jemili encore,
qui
m'a
dit,
il faut que tu montes à Paris pour réaliser tes scènes, il faut que tu montes. Et moi, à Marseille, je commençais un peu à marcher, je commençais à me sentir à l'aise sur scène, et au moment où je me suis senti prêt, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter là-bas où tout se joue, entre guillemets, où tout le monde dit que ça se passe, et j'ai voulu aller là-bas, repartir de zéro, même si je n'étais pas encore... développé, même je sais pas encore du tout, mais tu vois ce que je veux dire.
Ouais, je comprends. Ouais.
Je suis reparti de zéro, aucun comédie club me connaissait et tout, et c'était pas facile au début. À la fin, ça commençait à aller, mais au début, c'était vraiment pas facile.
Ah oui, parce que nous, on connaît tous des humoristes marseillais qui sont partis 2-3 mois et qui sont vite revenus à Marseille parce qu'ils se sont rendus compte que si Marseille, ça peut paraître sauvage, on se rend compte qu'à côté de Paris, on reste quand même dans un milieu assez préservé et sympathique. Ouais, parce que y a la réputation de Paris, c'est que les humoristes sont beaucoup moins sympathiques entre eux qu'à Marseille, où ça reste quand même bon enfant entre nous dans l'ensemble, quoi.
Oui, vraiment, là-bas, c'est autre chose. Hein. Dans les comédie clubs, déjà, c'est des usines, les comédie clubs, comparés à nous. Mm. Nous, il y a un plateau par soir, on est en folie, tu vois, on est tous ensemble et tout. Là-bas, il peut en avoir 6-7 dans la même soirée.
Ouais, donc ils sont... Et en plus, les humoristes courent d'un plateau à l'autre, ils n'ont pas le temps de se parler, de devenir amis, c'est...
Non, c'est compliqué. Ouais, après, tu te crées des amis, en vrai, ça va, tu en fais. Il y en a avec qui tu t'entends mieux que d'autres, tu vois. Moi, je me suis fait des bons potes là-bas, j'ai eu la chance. Et j'ai couru d'un plateau à l'autre, j'en faisais 6 par jour, des fois.
Ah ouais, mais c'est 6, ça. Et on a vu la différence, hein, parce que dans le stand-up, c'est le fait de jouer, plus on joue et plus on progresse. Oui. Et on a vu la différence quand t'as revu 6 mois plus tard. On a vu de suite le gap, l'écart que t'avais mis à certains humoristes avec qui t'avais commencé, puisque le nombre de scènes mathématiquement fait progresser beaucoup plus vite dans le stand-up, quoi.
Oui, grave, ouais, c'est ça. Ça me permettait de jouer tout le temps. Je me suis confronté à des chichas. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de chichas.
Ah.
À Paris, j'ai fait énormément de chichas. Presque tous les soirs, je faisais des chichas au moins 3-4 fois par semaine. Et là, vraiment, ça fait progresser. Ça te prend, ça permet de travailler ton imperméabilité sur scène.
Ouais.
Tu prends des balles, mais tu restes droit, tu vois.
Ouais. Tu tiens le coup malgré la souffrance.
Ouais, tu transpires sur scène, je peux te le dire.
Ouais, je crois que tous les humoristes qui sont passés par la chicha parisienne sont revenus avec quelque chose d'un peu éteint dans le regard, comme s'il y avait un avant et un après. Ouais,
tu perds ton âme, j'ai vu beaucoup d'âmes là-bas. Il y a beaucoup d'âmes qui circulent en haut d'un humoriste mort, malheureusement, sur scène.
Dans les chichas, ouais.
Mais c'est très bien, par contre, quand tu retournes une chicha, la sensation, elle est hors norme.
Ouais.
Ah, vraiment.
Parce que tu sais que tu réalises un exploit qui sera pas fait des 10 minutes plus tard, quoi.
Ouais, et les rires aussi sont incroyables en chicha. Par contre, quand ils rigolent, tu sais, ils se lèvent comme si tu avais mis un petit pont au foot, t'as vu, au quartier, quand ça fait « Ah !» Ben, c'est vraiment cette sensation-là, donc du coup, c'est ouf.
Et les chichas marseillais, t'as pas essayé de monter un plateau ou te lancer
J'en ai fait une fois au Gotha, mais c'est de Paris, on m'avait appelé avec des humoristes parisiens, on l'a fait. Et ouais, je l'ai fait au Gotha, on va les refaire au Gotha, c'est très très bien, c'est dans la même ambiance. Et ouais, ça va, j'ai la chance, j'ai trop bien marché, j'étais à la maison, en plus je suis venu qu'avec des humoristes de Paris.
Ah oui.
Du coup, il fallait que je prouve. Toute ouais, l'année, je me la pète là-bas, Marseille c'est chez moi, Marseille c'est chez moi, si je bidais,
ouais, là, c'était...
voilà, c'était fini.
Donc t'as prouvé que les Marseillais, ils accueillaient bien leurs semblables quand t'es allé sur scène.
Oui, oui, vraiment. Ça a été le cas en plus, c'est vraiment, ils ont été au top le public.
Justement, moi je voulais savoir, bah, déjà si tu pouvais nous raconter ton meilleur moment sur scène, si t'as un souvenir de scène exceptionnel ou en tout cas où tu gardes un moment où ça reste incroyable quand tu y repenses.
Je crois que c'est mon premier spectacle,
ouais,
que j'ai fait au Garage Comedy Club.
Ah oui, oui, oui.
Voilà.
Avec une grande banderole, Thibaut Rugy, de supporter de foot à l'arrière.
Des fumigènes et tout, c'était incroyable. Franchement, c'était la meilleure scène que je crois que j'ai jouée de ma vie.
Ouais, parce que t'as eu tout le monde qui était là pour toi et c'était vraiment une célébration ensemble, quoi.
De ouf. Et j'avais des gens qui sont venus me voir des réseaux, mais j'avais beaucoup, beaucoup de collègues aussi également, ouais, qui venaient, des collègues du stade, tout ça et tout. Et du coup, c'était une ambiance incroyable. Genre, j'ai passé un moment de ouf sur scène.
Ouais, bah ça, c'était un bon moment en tout cas de retrouver ouais, ses amis et de vivre un moment comme ça tous ensemble. C'est toujours incroyable. Est-ce que tu peux me raconter du coup, forcément, on a eu le meilleur moment, le pire moment sur scène. Est-ce que tu as un souvenir de scène où tu t'es dit, qu'est-ce que je fais là?
Ouais, je crois le pire moment que j'ai passé sur scène, c'est peut-être une chicha dans, je ne me rappelle plus le nom de la ville, dans le 9-5, un truc comme ça.
Ah ouais.
Ah là là. Ah là là, chicha à 14h.
Oh.
Déjà 14h de l'après-midi. Bon, il y avait un bon billet à prendre, cool. Ah. Mais genre, c'était en mode. Je sais pas ce qui se passait. En vrai, il y avait des enfants, il y avait de tout. C'était horrible. Je pense que j'ai fait un quart d'heure où il n'y a pas eu un seul rire. Et juste après, on part faire un autre plateau dans un centre commercial.
Ah oui. Ah.
Au milieu des gens, personne assis. Quelle angoisse. C'était horrible. Et je me rappelle, c'était le 24 décembre. Ça veut dire que je fais ça. Et après, je prends le train pour remonter, pour descendre à Marseille pour fêter Noël en famille. Dans le train, je pleurais presque, je te jure. Je me disais, le Père Noël, il n'existe pas là. Je l'ai vraiment su. Hein, là, ce jour-là, je l'ai vu. Hein.
T'as vu l'espoir qui est mort ce jour-là devant toi?
Ah ouais, j'ai fait deux bides, mais c'était même plus des bides. Hein. C'était mon âme, elle est sortie. Il n'y a pas eu un rire.
Ah oui, ouais, donc c'était souffrance totale.
Souffrance totale.
Et t'as passé des bonnes fêtes de Noël après ça quand même?
Ouais, ben je pouvais que passer des bonnes fêtes après ça. Je m'aurais mis seul avec les petits sapins qui sent bon là dans la voiture, même tout seul, j'aurais passé un meilleur moment que sur scène.
C'était, ouais.
Ah ouais, c'était l'angoisse.
Il y a des petits traumas, il faut le savoir. Quand vous voyez des grands humoristes sur scène, il faut savoir qu'ils ont vécu tous des traumas dans le genre de Thibaut,
ah ouais,
avec les chichas, avec les scènes dans des centres commerciaux et tutti quanti. Thibaut, donc du coup, on va parler quand même de spectacle. Requin, déjà, pourquoi un spectacle entier? Parce que je dis, t'es un aficionado des comédie clubs, tu fais des passages de partout. Pourquoi t'avais envie de rester une heure comme ça seul avec le public? Est-ce que tu avais un message envie de passer, simplement l'envie d'étirer des sketchs? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce spectacle?
En vrai, pour moi, le spectacle, dans ma tête, tu vois, c'était le match de foot. Tu vois, je vais te faire une métaphore par rapport à ça, mais les comedy clubs, tous les jours, je m'entraîne.
Mm-hmm.
Tous les jours, je m'entraîne et de temps en temps, j'ai un match dans la semaine, tu vois. Et pour moi, le spectacle, c'est le match. C'est à une heure où il faut que tu sois concentré à fond et il faut que tu dévoiles ton univers, parce que moi, j'ai un univers assez particulier, même s'il touche à... Et j'arrive à toucher plus de personnes, tu vois.
Mm-hmm.
Mais en 10 minutes, c'est moins facile de le montrer qu'en une heure.
Ouais.
Voilà. Et même, j'avais trop de choses à raconter. J'arrivais pas à le raconter en 10 minutes, vraiment. Toutes les bêtises et tout que j'ai faites, que je voulais raconter sur scène, tu vois.
Et donc, du coup, ça t'a permis de passer. Aujourd'hui, t'as un fil rouge de ce spectacle, quelque chose qui te permet de connecter sur tout le spectacle ou c'est un agrégat de sketch?
Non, 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 c'est vraiment un fil rouge. C'est une histoire, le spectacle.
Ok, c'est qu'une seule histoire.
C'est une seule histoire. C'est de ma carrière de footballeur à ma carrière de stand-upper. Oui. Et ça va là, tu vois.
Parce que t'as vécu les deux?
Non. Que celle de stand-upper. Okay. Et encore, footballeur, elle est un peu mensongère.
Oui, c'est Merwan Sali, ça, qui était footballeur.
Tu connais, quand t'es petit, on a tous voulu jouer au foot. Ouais. On a tous voulu percer, malheureusement. Voilà.
Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Mais même sur scène, il y a de la place pour tout le monde, justement, au stand-up.
Exactement.
Donc, c'est ça qui fait plaisir. Thibaut, justement, on va parler de ce spectacle. Aujourd'hui, ce spectacle, tu le vois évoluer comment? Tu voudrais qu'il aille jusqu'où? Tu voudrais qu'il fasse quoi?
Ben moi, mon rêve avec ce spectacle, c'est remplir des grosses salles.
Mm-hmm.
Ça serait le but. Déjà, faire partir un peu à Paris, le jouer. J'ai eu la chance de le jouer à Nice,
mm-hmm,
à Toulon. Là, je vais le jouer en Corse. Je vais le jouer à Montpellier, un peu à Toulouse aussi. Je vais également le jouer là cet été. Mais le but ultime, ça serait faire une grosse salle à Marseille et une grosse salle à Paris. Ouais.
Ah, donc, c'est des beaux objectifs. Ouais. Donc, en fait, tu reviens là où tu as commencé, dans les salles de 1000 places avec Hakim Jemili, mais sauf que là, c'est lui qui fait ta première partie.
Ouais, peut-être pas première partie. On l'invitera au milieu de la scène pour rigoler, pour raconter les anecdotes.
Ouais, ouais.
Mais ouais, faire un vélodrome, façon de parler, tu vois. Mais...
Ouais. Vélodrome.
Un petit vélodrome, exactement.
Comment on peut dire? Le stade de...
Le Dôme.
Le Dôme, c'est bien.
Un Dôme, c'est bien.
Un Dôme, c'est pas mal.
Ce serait mon but d'ici 3 ans, peut-être.
Ouais, c'est pas mal. Le Dôme, l'Espace Julien aussi, pas mal aussi.
Espace Julien, normalement, ça, c'est ce que j'ai en tête, là.
Ah, ok. Bon, on va pas trop divulgâcher, on gardera la surprise de ça.
C'est ça, la prochaine étape, j'aimerais que ce soit l'Espace Julien.
Ah, c'est une belle salle, hein, déjà. Mais... C'est quoi? C'est 600 places, 500 places?
600, ouais, 600, 700.
Ouais, donc c'est une très belle salle, déjà.
Très belle salle.
Et justement, en plus de spectacle, moi, j'aime bien te poser la question parce que je pense qu'on aura le plaisir un jour de réécouter ces interviews dans le futur. Est-ce que tu peux me dire où tu te vois dans 10 ans, là, maintenant, là, si tu réfléchis, en termes de carrière. Après, ça peut être aussi perso si tu veux des enfants ou autre, mais surtout en termes de carrière.
En termes de carrière, mon rêve dans 10 ans, moi, ça serait réaliser un film.
Ah ouais, trop bien.
Ouais, même avant les 10 ans, mais ça serait réaliser un film. Et du coup, peut-être, pourquoi pas, dans 10 ans, au Festival de Cannes.
Ah, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a, mais on rigole, mais il y a un cinéma marseillais qui est en train d'émerger grâce aux frères Bougaraba, notamment, là, qui font pas mal. Et on voit qu'il y a eu des web-séries qui se sont converties en films, notamment les Secpas, etc.
Les Secpas, les Dégains, tout ça.
Les Dégains, exactement.
Sous écrou. Ben, en fait, c'est hyper focal aussi. Ils sont beaucoup pour ça. C'est une production. Non, franchement, ce serait mon rêve, réaliser un film.
Ouais, de la comédie plutôt ou...
Non.
Ah, du drame.
Je pense un peu des deux, tu vois, comédie dramatique.
Sur un jeune homme, par exemple, qui voudrait devenir footballeur, mais qui serait juste drôle.
Juste drôle. En match, juste drôle. Juste drôle, en match.
Non, mais pas sur scène, toi. Non, non, mais moi, scène, je veux être attaquant. Non, non, toi, tu vas sur scène. Ok, écoute, on a hâte de voir ce biopic sur Thibaut Rigide en 10 ans qui va surgir sur nos écrans. Thibaut, je voulais quand même savoir où c'est qu'on peut te retrouver, comment on peut te voir en spectacle, sur les réseaux, ailleurs.
Je mets tout dans mon lien Instagram, dans ma bio Instagram, c'est Thibaut Rugier, moi, sur Instagram, comme ça se prononce, tu vois, T-I-B-O, R-U-G-I, je suis en dessous de Thibaut InShape, c'est facile à me voir, tu vois.
C'est facile. Juste après celui qui a des gros pecs, il y a toi, quoi.
C'est ça, il a tout de gros, lui, moi j'ai rien, mais il a des gros abonnés et tout. Mais...
Un petit cerveau, quand même.
Petit cerveau, très petit. C'est vrai, bien vu, très petit. Dame la team shape, non. Ouais.
Désolé Thibaut si tu nous entends, en tout cas pas Thibaut Rugy, mais vas-y dis-moi Thibaut, du coup comment on te retrouve?
C'est ça sur le bio de mon Instagram, je fais mon spectacle là, tout l'été à Marseille, et tous les week-ends je pars dans une ville du sud le faire.
Trop bien.
Et la prochaine ça sera Montpellier, après il y aura comme je t'ai dit la Corse, tout ça.
Et donc c'est Toulouse. Une grosse tournée et donc ouais, un été chargé, t'as pas de vacances cet été toi?
Peut-être que je vais prendre mes vacances début septembre.
Ah ouais,
début septembre, petites vacances en Italie, une semaine, tu connais.
Dégus, il n'y a que des retraités autour de toi, pas trop de monde et tout.
La vraie vie. Hein.
Ouais, la vraie vie.
Téléphone coupé pendant une semaine.
Ouais, pas de réseau.
Je pense que je le laisse même ici à Marseille.
Ouais, c'est pas mal. Bah, garde-le au cas où tu tombes dans un ravin où on ne sait jamais.
C'est vrai.
C'est pas mal.
C'est mieux. Mais...
Au cas où tu as un problème de réservation aussi pour faire sur le portable, c'est pas mal. Non, garde-le, mais en mode avion.
Ouais. Mais mode avion de fou, frère.
En mode avion.
Ça, j'en ai marre du téléphone.
Je crois qu'on est tous. Je pense que tu es le 5e humoriste qui vient dans ce studio et qui me dit j'en peux plus du téléphone. Donc, je pense qu'il y a quand même un truc global, mais peut-être c'est générationnel. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, on est scotché sur nos téléphones et en même temps, on les supporte plus. Donc,
on regarde nos nombres de vues, tout ça, c'est horrible. Ça
C'est aliénant au possible, hein, c'est sûr. Mais...
On veut vivre.
On veut vivre. Après, mais avant, on était obligé de passer par des producteurs. Aujourd'hui, on est obligé de passer par les réseaux, entre guillemets, c'est deux chemins de croix pour les artistes, puisque en fait, ce qu'aiment la plupart des artistes, hein, c'est souvent la création, le fait de se retrouver avec le public et tout, mais malheureusement, il faut passer par là à côté pour.
T'es obligé d'envoyer des vidéos et tout, mais moi, c'est dur. En fait, envoyer des vidéos, c'est pas le plus dérangeant. C'est qu'on est accro à ça, frérot.
On est accro.
Les messages, les résultats, les stats, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, ça y est.
Ouais, j'ai l'espoir secret qu'il y ait des hackers qui fassent tomber tous les réseaux un jour et qu'on se retrouve juste à faire du stand-up pour les prestations de scène et que ça soit que ça qui compte. C'est vrai que j'en ai parlé.
Parce qu'il y a des humoristes, mettons, ils sont très très forts sur scène.
Ouais.
S'ils n'ont pas d'abonnés, les pauvres, ils ne remplissent pas.
Ouais, bah oui. Et à Paris, encore plus qu'ailleurs. Parce qu'autant à Marseille, il y en a qui échappent parce qu'on a quand même un petit mieux. Donc on se connaît tous les uns les autres. Donc on sait valoriser ceux qui ont, entre guillemets, sont talentueux. Mais quand on va du côté de Paris, j'ai l'impression que c'est vraiment que ça. Et on le voit dans certaines programmations de comédie club qui font venir des humoristes parisiens. Ils font venir que les plus, entre guillemets, suivis sur les réseaux. Et c'est rarement les plus drôles. Hein.
C'est rarement les plus drôles, mais c'est les plus forts en termes de marketing, en vrai.
Exactement, c'est ça. Bah après, il y en a qui sont très forts et très suivis aussi. Et là, dans le cas, ils font les deux.
Oui, par exemple, un Roman Frécyné, tu vois ce que je veux dire.
Exactement. Voilà. Il y a des monstres de partout, mais bon. On espère que les réseaux ne sont pas la constante seule de cette suite de carrière, mais pour toi comme pour tous les humoristes, parce qu'on se souhaite quand même des belles scènes, et il n'y a rien de plus beau qu'une scène réelle avec du public. Et je pense que c'est pour ça que tous les humoristes, ils sont accros, et même les plus grands, hein, Gad Elmaleh et les autres, même quand ils ont commencé le cinéma ou à faire des grandes choses, ils sont tous retournés dans les scènes jouées, parce que tout le monde a besoin de ça, c'est ce qui nourrit.
C'est une drogue, hein, c'est une drogue, hein. La sensation, elle est hors norme, tu sais très bien, quand on fait rire des gens, c'est ouf.
Dès qu'on y a goûté une fois, normalement, on peut plus retourner en arrière, après c'est compliqué.
En vrai, c'est un métier quand même, qu'on se le dise, un peu de fou, tu vois, parce qu'on... On est malade de se dire d'avoir la prétention de prendre un micro et faire rire 50 personnes que tu connais pas. Mais en vrai, la sensation quand tu le fais, elle est ouf.
Ouais, elle est incroyable. Pour le public comme pour nous, c'est toujours des moments incroyables. Donc, on vous invite à venir voir Thibaut Rugy en spectacle dans Requin, donc son premier spectacle, et venir voir du stand-up partout à Marseille, dans tous les comedy clubs, mais aussi dans tout le sud de la France, Montpellier, Nice. Et Thibaut, on te souhaite des grands films dans 10 ans, une tournée de ce spectacle, d'amener Requin très loin, en tout cas au plus haut possible, dans les plus grandes salles. Et bonne journée à toi.
Pareil, merci beaucoup de m'avoir invité. Vous êtes des monstres, Fréquence Mistral. Yacine, tu es le sang, le boss, tu le sais.
Ouais, ouais. Et gros bisous à Rodolphe aussi.
Un gros bisou à Rodolphe sur son beau crâne chauve. Je lui fais un bisou. Voilà.
Je termine toujours en musique. Est-ce qu'il y avait une musique que tu avais envie de... Enfin, tu m'as proposé une musique. Est-ce que tu veux la présenter?
Ouais, ce serait la musique de Stony Stone Hacker. Stony Stone, c'est un artiste émergent de Marseille, mais qui se développe vraiment très, très bien. C'est la musique de la fin de mon spectacle.
Ok.
Et je la trouve trop, trop bien, cette musique. Elle transmet des belles émotions. Et voilà, c'est qu'un cas de Marseille. On est solidaires entre nous et ça tue ce qu'il fait.
Eh bien, allez, on va lancer Stony Stone tout de suite et on te souhaite une très belle journée.
Merci.
Je voulais faire le tour du globe, mais je fais que des tours en ville. Ma vie elle est pas très rose. Bisous à ceux qui m'envient. Tu peux me trouver vers le port, des fois vers la Valentine. Tu peux me trouver vers le nord ou à Noailles dans une cantine. Faudra leur hacker le stone, petit poisson très sensible. Je peux faire des trous dans ton corps, ça coûtera pas un centime. J'ai encore rien dans les poches, mais c'est déjà mieux qu'hier. Je remercie le bon Dieu pour tout, faut que je refasse la prière. J'ai des vibrations dans l'abdomen, j'ai toujours la mentale shonen. Abandonner c'est pas mon domaine, je la connais sur un coup de tête. Elle peut lire tous mes sons, mais on est comme le gaz et le feu. Je le rappeur, c'est l'ingé son. Ça part dans tous les sens, j'ai mon pétard et l'essence. Plus j'avance, j'ai moins d'amis, beaucoup plus de connaissances. Dis-moi pourquoi t'as peur, tu prends trop les choses à cœur. Je pourrais le crier sur tous les toits, t'es ma baby, t'es ma cœur. Ça part dans tous les sens, j'ai mon pétard et l'essence. Plus j'avance, j'ai moins d'amis, beaucoup plus de connaissances. Dis-moi pourquoi t'as peur, tu prends trop les choses à cœur. Je pourrais le crier sur tous les toits, t'es ma baby, t'es ma cœur. J'arrive ici en sifflotant, un petit air de la boulette. C'est pas grave si on s'affiche, tes regards ça va pas nous être. Je viens de là où y'a le chant des cigales, le cri de la mouette. Mes frères étaient en chaise roulante, là ça roule comme sur des roulettes. Inch'Allah tout ira mieux, j'ai un problème je le dis à Dieu. Toi on te confie en secret, puis tu vas le dire à eux. Dans ma culture pas psychologue, c'est mieux on soigne aux psychotropes. T'as un souci comme je t'ai dit, faudra pas venir le dire aux autres. C'est parce que je suis des êtres, mais je fais que des rêves de baiser. Où je suis tout seul dans le désert. Toi je te veux pour le dessert. Avant je peux serrer la ceinture, mais j'aime trop quand tu la desserres. Tout ça c'est parce que je suis des êtres, mais je fais que des rêves de baiser. Où je suis tout seul dans le désert.